et bienvenue dans ce sixième épisode de Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler du recyclage du textile et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Gabriel André. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Elisa, merci de m'accueillir.
Tu es doctorant en deuxième année de thèse. Ton sujet de thèse s'intitule « Valorisation pour usage textile des monomères issus de la dépolymérisation du polyéthylène téréphtalate dans un procédé de recyclage textile ». Un sujet très intéressant que l'on va simplifier, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton environnement de travail ?
Alors moi, en effet, je suis doctorant en deuxième année au laboratoire GEMTEX, Génie des matériaux textiles. C'est le laboratoire de l'ANSET, qui est l'école de textile à Roubaix, et qui fait partie de l'écosystème de l'Université de Lille. Je suis encadré par deux professeurs des universités, Christine Campagne et Aurélie Kella, et aussi par un maître de conférence, Stéphane Giraud.
Alors aujourd'hui, avec la fast fashion et l'ultra fast fashion, des concepts qui reposent sur la surconsommation des vêtements, l'industrie textile a un impact assez lourd sur l'environnement. Mais alors, de quoi sont composés ces textiles justement ?
Eh bien, il y a beaucoup de matières qui peuvent être utilisées pour faire des textiles, selon le domaine, selon l'application. Mais ce qu'on voit, si on regarde les chiffres, c'est qu'il y a deux matières qui sont très, très largement utilisées. D'abord, le polyester, à 57% des fibres produites dans le monde. Et ensuite vient le coton avec 20%. Et puis aussi viennent d'autres fibres synthétiques comme le polyamide ou des fibres naturelles comme la viscose.
Et justement, dans cette composition, est-ce qu'il y a des matières recyclées ?
Alors, dans toutes ces fibres produites, il n'y a environ que 7% des fibres qui sont issues du recyclage. Et d'ailleurs, c'est quasiment que du recyclage de bouteilles plastiques. En fait, il faut savoir que le polyester qu'on a dans les vêtements, il s'appelle, son nom scientifique, c'est le polyéthylène téréphtalate. C'est le même polyester qu'on trouve dans les bouteilles. Donc en fait, on vient fondre des bouteilles pour créer notre fil de polyester. Et finalement, pour les autres matières, il y a assez peu de recyclage. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est recycler du textile pour une application textile.
Ok, mais alors le recyclage de textile en fin de vie est possible. Concrètement, quelles sont les méthodes qu'on utilise aujourd'hui ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur le textile en fin de vie, c'est que globalement, peu sont recyclés. Il y en a beaucoup qui sont envoyés dans des pays plus pauvres pour être réutilisés ou pas. On a tous vu des images de montagnes de vêtements dans certains pays africains. Mais si on parle du recyclage des textiles en fin de vie, industriellement, ce qui se fait apparemment le plus, ce serait de l'effilocher ou de le broyer pour notamment l'isolation. Donc c'est une bonne chose, car ça valorise déjà nos déchets. Mais il faut savoir que du coup, il en reste des tonnes, notamment ceux dont je parlais, qui se retrouvent sur des plages, notamment en Afrique. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir recycler du textile pour en faire du textile. Mais pour ça, il y a différents problèmes qui se posent.
Et justement, quels sont ces problèmes ?
Les textiles, comme je le disais, sont des matériaux qui sont assez complexes pour différentes raisons. Déjà, leurs compositions peuvent être multimatières. Typiquement, du polyester peut souvent être mélangé à du coton. Ce qui peut aussi poser problème, c'est tout ce qu'on appelle les points durs, donc les boutons, les fermetures éclairs, les coutures, qui peuvent poser problème pour le recyclage. Le dernier point, ça va être tous les traitements qu'ils vont subir, donc que ce soit les colorations, les différents apprêts, donc tous les traitements qui pourront subir pour arriver à l'application. Donc, si on devait retenir une dernière chose, c'est aussi qu'il y a des enjeux au niveau du tri, notamment à cause des compositions complexes des textiles.
Et tu nous as dit que les bouteilles plastiques pouvaient être fondues pour faire un fil. Pourquoi on ne peut pas simplement faire du fil de polyester en fondant un fil de polyester en fin de vie ?
Alors, c'est une très bonne question et très logique.
Merci.
quand on recycle des bouteilles plastiques, on chauffe la matière. on la fond et on refait un fil avec. Ça, c'est assez basique. Mais en fait, comme je l'ai dit, on a des compositions complexes pour le textile qui font qu'il y a aussi beaucoup de choses autres que, par exemple, dans un fil de polyester, du polyester. Donc, quand on le fond, ça peut, et ça, dégrade la matière, en fait. Donc, on ne peut pas avoir la même qualité de fil si on fond un fil pour en refaire un fil.
Et c'est donc là qu'intervient ta thèse. Tu peux nous présenter un peu ton objectif ?
Alors moi, je m'intéresse au recyclage chimique du polyester, donc le polyéthylène téréphtalate, dont on parlait plus tôt. Le polyester, donc c'est un polymère, il faut imaginer ça comme une longue chaîne avec des motifs qui se répètent. Si vous voulez simplifier, vous pouvez imaginer des briques de Lego que vous avez emboîtées. Et ben moi, l'idée de mon procédé, ça va être de défaire entre elles toutes ces briques de Lego pour arriver à l'élément constitutif qui est la brique de Lego. On obtient ainsi donc notre motif de base qui, pour vous donner une idée, moi, se présente sous la forme d'une poudre blanche. Et à partir de ce motif de base, on peut faire différentes choses, soit le réutiliser pour une application quelconque pour le textile, soit, et c'est l'idéal, reconstruire cette nouvelle chaîne, ces nouveaux blocs de Lego, ce qui serait du coup très intéressant. Ceci dit, ça demande des caractéristiques bien précises, que ce soit en termes de pureté, comme je vous le disais, s'il y a des impuretés, eh ben, ça va entraîner une certaine dégradation de la matière, et aussi en termes de taille et de forme des particules, qui vont être importantes pour refaire notre polymère, repolymériser.
Et alors aujourd'hui, quelles sont les avancées de ta thèse ?
Alors du coup, moi maintenant, ça fait 15 mois que je suis en thèse, donc je suis bientôt à la moitié, ça passe vite. Il faut savoir que les 4-6 premiers mois, c'est beaucoup beaucoup de bibliographie. À partir de cette bibliographie, ben, j'ai développé aussi avec mes encadrants le protocole, un protocole de base. Ensuite, j'ai fait varier différents paramètres dans ce protocole pour voir l'influence que ces paramètres pouvaient avoir. Et j'ai caractérisé la matière, donc comme je disais, en termes de pureté, en termes de taille et de forme des particules. Ensuite, il y a toute une étape où il faut essayer de comprendre ces résultats, comprendre les différences selon les paramètres pour pouvoir exploiter, et bien comprendre aussi tous les phénomènes qui rentrent en jeu, les mécanismes. Donc voilà, moi maintenant, certains protocoles me donnent des résultats qui paraissent assez bons. Ben maintenant, ce qui serait super, c'est de pouvoir refaire notre pyramide de Lego pour repasser au polyester. Ensuite, produire assez de polyester pour pouvoir en faire un fil. Et enfin, pouvoir calculer notre impact environnemental, parce que c'est aussi ça qui est important, savoir si c'est viable économiquement et écologiquement.
Et justement, d'un point de vue financement, tu as des liens avec l'industrie ?
Alors, à la base, c'est une entreprise qui avait répondu à un projet, un appel à projet de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. Il se trouve que cette entreprise développait un procédé de recyclage textile, justement, mais malheureusement, cette entreprise a fermé. Donc, plus vraiment de lien en soi avec l'industrie. Mais cette thèse a tout de même du sens parce que c'est une recherche qui va vers le futur et qui est ancrée dans les enjeux actuels. Donc, et pourrait très très probablement servir à d'autres industriels ou même académiques.
C'est important pour toi d'avoir justement ce lien avec les enjeux actuels ?
Ouais, moi c'est quelque chose que je recherchais vraiment, vraiment, vraiment dans mon travail. Et je pense que c'est nécessaire.
Merci Gabriel pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un morceau choisi par Gabriel, c'est Masculinity de Lucky Love. Écoutez.
It's been in my head for so long, I've told it to me, this words I can remember. It keeps coming on and on. They kept beating on and on my face. If they keep telling I'm a liar, babe, it's not my fault, I build these layers. I can meet myself. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Who gives you the right to run the wolves? Who gives you the right to run the wolves? What's wrong with you? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, my flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My muscles not sharp enough, and my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound like the other? Do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It would be short-sighted to try. Is it coming through your mind that I don't care to be a man?
De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Maté Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Gabriel, un doctorant de deuxième année. Je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche.
Eh bien, du coup, moi, je suis ingénieur, pardon, chimiste. Je suis diplômé de l'école Sigma Clermont, à Clermont-Ferrand. Et avant ça, j'ai fait un bac S et une prépa intégrée en école de chimie. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire de la recherche? J'ai toujours été assez curieux, je crois, et j'aime bien chercher, trifouiller un peu partout en général. Donc c'était un peu, je pense, évident pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des stages dans un peu toutes les structures, que ce soit start-up, très grandes entreprises ou de la recherche académique, et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que le sujet compte beaucoup pour moi. J'aime bien que ce que je fais ait vraiment du sens. Et la deuxième, c'est qu'en effet, j'aime chercher, donc bah, si naturellement, finalement, je me suis tourné vers la recherche.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette thèse en particulier ensuite?
Alors en fait, quand je cherchais un emploi, ça correspond à ce que je vous disais avant, je cherchais plus un sujet qu'une structure finalement. Donc je savais que je voulais avoir une influence sur la transition écologique en général, que je pense absolument nécessaire. Et donc, comme je disais, j'avais besoin de me sentir utile dans mon travail. En plus, j'ai trouvé ça très motivant parce que on parle ici du domaine du coup textile que moi je connaissais pas du tout en tant qu'ingénieur chimiste ou alors très peu, même si au final c'est des matières qui ressemblent qu'on utilise. Et donc, ça me permettait en plus de découvrir un nouveau domaine. Je suis entouré en fait quotidiennement de personnes qui m'en apprennent beaucoup sur beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors qu'on porte tous du textile tous les jours. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. J'ai pas tant hésité en voyant le sujet, même si j'avais pas forcément prévu de faire une thèse. Il faut quand même se projeter, ça dure 3 ans. Ce qui m'inquiétait peut-être un petit peu, c'était de travailler seul, parce que j'ai souvent été entouré d'une équipe, etc., dans mes autres expériences. Et au final, je ne suis pas si seul. On est beaucoup de collègues, on est une bonne bande de doctorants. Je suis aussi très bien encadré par mes directrices et mon encadrant de thèse, donc je me sens pas du tout seul finalement dans cette thèse.
Donc aucun regret ?
Non, aucun regret.
Tu nous as dit que tu n'étais pas textilien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà ce que c'est ?
Alors textilien, nous c'est un... Alors, je sais pas si c'est vraiment correct de le dire en fait en français, mais c'est un terme que les gens qui ont fait une école de textile utilisent pour se désigner eux-mêmes. Je pense que c'est ça. Moi, je l'utilise comme eux pour désigner quelqu'un qui est ingénieur textile ou qui travaille dans le textile plus en général.
Et alors, au quotidien, comment se passe ton travail ? Est-ce que tu participes à des congrès, par exemple, pour partager tes travaux ?
Alors, mon travail, il s'organise. C'est vraiment un jonglage perpétuel entre manipulation, analyse des résultats, prise du recul, bibliographie. C'est jonglage perpétuel entre toutes ces thématiques. Oui, je participe à des congrès. Comment ça se passe ? Généralement, on nous demande d'envoyer ce qu'on appelle un abstract. C'est en fait un résumé du travail qu'on voudrait présenter. Ensuite, les organisateurs choisissent leurs intervenants et le type de valorisation. Donc ça peut être par exemple une présentation orale ou encore un poster. Parfois, l'organisation demande, soit avant la conférence, soit après la conférence, d'écrire un papier en plus pour résumer, mais un peu plus développé le travail qui est ou va être présenté. Oui, ça m'arrive de temps en temps en faire.
Et justement, comment on prépare cet exercice ?
Alors moi, je pense que la première question que je me pose, je vais prendre l'exemple d'une présentation orale, c'est quel message je veux faire passer. Parce que quand on travaille, par exemple, comme moi, sur un sujet depuis 15 mois, il y a forcément beaucoup, beaucoup de choses qu'on a faites et on ne peut pas tout présenter pour une présentation de 10 ou de 15 minutes. Donc moi, c'est la première question que je me pose, c'est quel message j'ai envie de faire passer. Une fois que j'ai trouvé ce message et que je l'ai éventuellement affilié à une problématique, je vais préparer mes slides. Ce que je fais généralement, c'est que je vais juste mettre des mots-clés sur des diapositives pour organiser mes idées. Et juste ensuite, une fois que je trouve que tout est bien arrangé, qu'il y a un vrai fil conducteur, je vais illustrer avec des images, des graphes, des textes, avec du coup le bon nombre d'infos, c'est-à-dire assez pour tout comprendre, pas trop pour pas noyer celui qui va nous écouter. Moi, j'essaye de soigner particulièrement les toutes premières et les toutes dernières slides. Les premières servent d'accroche. Si elles ne sont pas bonnes, les gens décrochent. Et les dernières servent vraiment de synthèse. Donc si jamais les gens ont quand même décroché, ils peuvent se raccrocher aux dernières slides et quand même comprendre l'idée qu'on voulait justement faire passer. Et la dernière étape, ça va être de s'entraîner à l'oral pour avoir un propos qui colle bien avec le support qu'on a préparé.
Est-ce que tu as une partie préférée dans ton travail ?
Dans la préparation des diapositives ou de...
Ou dans la manipulation
en général. Mais en fait, je crois que ce que j'aime, c'est le fait qu'on n'ait pas deux semaines pareilles. Comme je disais, on jongle entre beaucoup de entre guillemets, disciplines différentes. Et ça me plaît beaucoup parce que je suis dans la vie assez actif, donc j'aime bien travailler au laboratoire, mais de temps en temps, ça me fait vraiment du bien de justement me dire « Ok, là, j'ai fait deux semaines de manipulation non-stop, je vais enfin pouvoir me poser un petit peu sur mes résultats, pouvoir tout comprendre, parce que ça, bon, ça peut être un problème, mais quand on cherche, on veut aussi comprendre. Des fois, on ne comprend pas, il faut l'accepter. Mais ouais, c'est vraiment le fait de pouvoir un peu tout faire, en fait.
Et quand c'est comme ça, quand il y a des éléments que tu ne comprends pas forcément, tu peux faire appel à des collègues
Alors, ouais, complètement. Après, ça va dépendre du sujet. Je sais que j'ai des collègues, je peux, dans tel domaine, je peux leur poser des questions. C'est un peu la même chose pour mes encadrants. Je sais qu'ils ont chacun leur spécialité. Donc, selon la question que j'ai à poser, je ne vais pas vers la même personne. Et puis même entre collègues doctorants, pour certains, on a des sujets assez similaires. Donc on va s'aider, que ce soit pour les rédactions, même quand on a des questions de « Ah tiens, j'ai un point qui va pas bien là, je comprends pas pourquoi, est-ce que t'as une idée ?» Et parfois, en fait, même juste en parler, on a soi-même une idée, rien que présenter le problème, on se dit « Ah ben en fait, je sais, c'est que moi j'ai plus besoin d'en discuter avec toi.
» Et quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
Je pense que je leur conseillerais de tester différents types de recherches industrielles, académiques. différentes types de structures, mais aussi des tailles de structures. Je trouve que c'est important parce qu'on ne procède pas vraiment de la même façon, que ce soit dans le privé ou dans le public, et que ce soit dans une start-up ou dans une multinationale. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire le maximum, d'avoir le maximum d'expérience dans différentes choses. Donc pour ça, souvent, il y a des stages qui sont très utiles. En règle générale, en fait, ne pas se fermer de porte. Par exemple, moi, d'il y a 5 ans, n'aurais pas voulu de thèse.
Et est-ce que tu aurais du coup une dernière pensée pour nos auditeurs? On a parlé du recyclage du textile, mais est-ce que tu penses que c'est une solution miracle justement pour réduire l'impact sur l'environnement?
Alors, c'est très important comme question, en effet. Oui, c'est nécessaire pour réduire l'impact de nos textiles sur l'environnement, mais non, le recyclage n'est pas une solution miracle. Ça, c'est très important de le dire et de le répéter. On le sait depuis longtemps, il y a le concept des 3R qui est arrivé depuis les années 80, qui dit « reduce, reuse, recycle », ça veut dire réduire, réutiliser, recycler, et il faut le faire dans cet ordre-là. Donc, le reduce d'abord. Donc pour que le reduce marche, il faut à la fois que le consommateur, l'entreprise et les politiques soient en lien et aillent dans le même sens. Il faut se dire qu'on peut tous agir en tant que consommateur et on peut tous agir en tant qu'électeur. Globalement, si pour moi vous deviez retenir une seule chose de mon intervention aujourd'hui, c'est, et ça vaut en fait pour l'industrie en général, c'est consommons moins et consommons mieux.
Et justement, avec ces vêtements dont on n'a plus l'utilité, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse avec ces vêtements-là? J'imagine qu'il ne faut pas les jeter.
Alors, ça dépend ce qu'on entend par utilité. Si, si on est, on a par exemple un gros trou dans notre jean, bon, ça peut être peut-être compliqué de le réutiliser, mais il faut réfléchir à comment vous pourriez le réutiliser pour peut-être d'autres applications, ou est-ce que vous pouvez pas faire un patch avec un autre bout de jean ou des choses comme ça. Il faut essayer de penser, en tout cas de penser à ne pas jeter directement, et jeter en fait en dernier recours.
Ben merci Gabriel pour toutes tes réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.